Nous sommes ce que nous mangeons. Si comme nous, vous pensez que notre alimentation peut changer le monde, vous êtes au bon endroit. Je suis Fanny Giansetto, cofondatrice et présidente d'Ecotable. Ecotable s'est donné pour mission d'accompagner le secteur de la restauration dans sa transition écologique en permettant aux restaurateurs de mesurer leur impact environnemental, de se former aux enjeux écologiques et de valoriser leur travail auprès du grand public. Dans ce podcast, j'explore les enjeux sociétaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. Je donne la parole à des experts, mais aussi à celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien, qu'ils soient restaurateurs, agriculteurs, entrepreneurs ou militants. La transition écologique ne se fera qu'avec le plus grand nombre. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à ce podcast, le noter et nous laisser un commentaire, suivre Ecotable sur les réseaux sociaux, mais surtout venir manger dans les restaurants Ecotable. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec mon invitée Nelly Ponce. Nous allons parler pendant cet épisode de l'un des enjeux majeurs de notre génération, c'est-à-dire le plastique. La production de plastique dans le monde se compte en centaines de millions de tonnes chaque année, notamment à cause des emballages qui représentent 40% du plastique utilisé. Pire encore, cette production augmente puisque depuis l'an 2000, il a été produit autant de plastique que toutes les années précédentes combinées. Alors on pourrait se dire que ce n'est pas si grave, puisqu'il existe des filières de recyclage du plastique. Le problème est qu'aujourd'hui, seulement 20% des déchets plastiques sont recyclés et 60% se retrouvent ainsi dans la nature. Par ailleurs, le recyclage du plastique en tant que tel pose problème dès lors qu'il s'agit d'une matière qui se dégrade, se transformant en micro puis nanoparticules, contaminant les cours d'eau, les sols, notre corps pour des centaines voire des milliers d'années. Comme le dit Nelly Ponce, mon invitée donc aujourd'hui dans son livre « Un océan de plastique », aujourd'hui nous le savons, nous aussi nous mangeons, buvons et respirons du plastique. Alors qu'en est-il exactement? Faut-il avoir peur d'une prochaine crise sanitaire liée au plastique? Quel est l'impact réel du plastique sur l'environnement? En France, les consciences s'éveillent sur cette question et selon un sondage assez récent, 85% des Françaises et des Français se prononcent pour l'interdiction des emballages plastiques à usage unique. Et on voit fleurir fort heureusement des initiatives et challenges pour sensibiliser le plus grand nombre à ces questions-là. Bonjour Nelly.
Bonjour Fanny.
Est-ce que tu peux déjà te présenter?
Oui, eh bien, merci pour cet accueil et cette tribune. Donc moi, je m'appelle Nelly Ponce, comme tu l'as dit tout à l'heure, et je suis aujourd'hui auteure, c'est-à-dire que je me dédie pleinement à l'écriture. Pour l'instant, j'explore plutôt la forme essai via un engagement écologique, sociétal de longue date. Donc je fais des enquêtes, notamment comme celle-ci sur le plastique avec Océan Plastique, qui est paru chez Actes Sud en octobre dernier.
Et alors, pour revenir un peu sur ton profil, comment t'en es venue à faire ces enquêtes et à écrire? T'as été journaliste avant?
J'ai été journaliste, même si je le dis pas vraiment, parce que j'ai pas de formation journalistique. D'accord. On va dire que j'ai été pigiste, j'ai été critique de spectacle. On va dire que j'écris depuis un certain nombre de temps, même si je n'ai pas de formation ni littéraire ni journalistique. J'en suis venue à l'écriture par des hasards de la vie, je dirais, petit à petit, et surtout par goût. Et à cette enquête, parce que à un moment donné, il y avait un personnage qui était très médiatisé, qui s'appelle Bojan Slat, qui a créé une ONG qui s'appelle The Ocean Cleanup, qui voulait nettoyer les océans, enfin qui veut toujours nettoyer les océans des plastiques. Et j'ai souhaité faire le portrait de ce jeune-là. Et c'est en travaillant sur son portrait que je me suis rendu compte que son projet tenait pas vraiment debout et que la réalité était beaucoup plus complexe que ce qu'on voulait bien l'entendre et la comprendre. Et à partir du moment où j'ai commencé à me poser des questions, j'ai cherché des réponses. Et puis après, j'ai été totalement prise par le sujet qui a duré du coup plus de 3 ans.
Et t'as toujours été engagée sur les questions environnementales ou t'es arrivée à ces engagements via le plastique?
Ah non, c'est beaucoup plus ancien que le plastique. Je suis même étonnée d'avoir travaillé sur un sujet aussi pratico-pratique et très concret en fait de l'environnement, puisque j'ai une fibre qui est plutôt proche du naturaliste qu'autre chose. Disons que je suis née à la terre et ça date de l'enfance et ça s'explique pas. Voilà, quand on passe sa vie à regarder les fourmis, à jouer avec les chiens et à courir la colline, voilà, c'est juste une enfance et ça s'inscrit profondément en soi.
Je comprends. L'objectif de ce podcast, c'est notamment de revenir, de faire le tour un peu de la question du plastique aujourd'hui. Je voudrais notamment que tu nous rappelles, en fait, quand a été inventé le plastique, d'où ça vient, en fait, c'est quoi le plastique ?
Eh ben, c'est la première grande question. J'ai découvert tellement de choses. Finalement, c'est un matériau qui est là autour de nous. Tout ce qu'on touche, on va dire, deux matières sur... pour une de tous les autres matériaux confondus, sera en plastique. On touche deux plastiques pour un verre, bois, papier, carton. Ça, c'est une journaliste américaine qui a fait ce petit exercice. Et en même temps, on ne sait pas ce que c'est. Donc, le plastique a été inventé, alors pas en une fois, évidemment, mais en gros, ça date de la fin du 19e siècle. Et alors, ce qui est rigolo dans son histoire, c'est qu'au début, il a finalement servi à sauver des vies, puisque en fait, on a voulu remplacer les boules de billard qui étaient faites avec l'ivoire des éléphants. Et il y avait vraiment haro sur les éléphants. Et puis après, on faisait des matières avec des écailles de tortue. Et finalement, inventer une nouvelle matière qui permette de pas prélever dans les écosystèmes, c'était finalement quelque chose de chouette au départ. Donc c'est Alexandre Parkes, un Anglais, qui a commencé à travailler à partir du celluloïde. Mais il a pas réussi à fixer vraiment sa trouvaille. Et donc c'est un Américain qui s'appelle Hayat et qui a une histoire assez rigolote puisqu'il a répondu à un concours pour justement remplacer les boules de billard, qui a réussi. Et ensuite, on arrive au début du XXe siècle, on a découvert le pétrole, le charbon, et là, on commence à faire le premier plastique à base d'hydrocarbures, qui est la bakélite, la fameuse bakélite de
Gainsbourg. Tu veux dire que le premier plastique ne venait pas du pétrole ?
Non.
Ah.
C'était avant, c'était le celluloïde. Okay. Donc c'était en fait le plastique
et
c'était, alors techniquement si tu vas vraiment trop loin, je risque de bugger à un moment donné. Mais ça vient de la cellulose en fait. Voilà, donc c'est une matière végétale à la base. Mais justement, c'est intéressant que tu poses la question puisqu'on pense que plastique égale pétrole. Oui, effectivement, puisque 99% de nos plastiques aujourd'hui sont issus d'hydrocarbures, pétrole, gaz de schiste, beaucoup, et aussi charbon. Sauf que, en fait, les plastiques sont les résultats d'un processus chimique et on peut se servir d'à peu près n'importe quoi comme matière de base. C'est pour ça que ce qu'on appelle les bioplastiques n'ont en réalité rien de bio. S'ils sont juste biosourcés, c'est-à-dire faits avec de la matière végétale, au final, ils auront exactement les mêmes propriétés qu'un plastique conventionnel et donc ils ne se biodégraderont pas dans l'environnement. Mais ça, on pourra reparler plus tard. C'est une des complexités du sujet où il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup d'incompréhensions. On n'a pas souvent l'espace dans les médias pour vraiment expliquer les choses. Donc, je trouve que cet espace aujourd'hui est intéressant.
Merci. Pour ceux qui nous ont déjà écoutés sur cette question, il y a notamment un épisode qui a été enregistré avec Alexandre des Alchimistes sur le plastique biosourcé. Mais oui, en effet, on va en reparler. C'est une question compliquée, je trouve, mais essentielle aujourd'hui parce que ça a paraît comme une alternative alors que ça semble en réalité ne pas vraiment l'être. Où est-ce qu'est fabriqué aujourd'hui le plastique ?
Alors, majoritairement en Chine. La bascule a eu lieu il y a quelques décennies. C'était les États-Unis qui étaient les pionniers. Avec le boom du gaz de schiste, les États-Unis sont bien revenus dans la course. Mais bon, plus de la moitié des plastiques sont produits en Asie aujourd'hui.
On en fabrique en France ?
On en fabrique en Europe, en France aussi sûrement. J'avoue que là-dessus, je suis pas allée vraiment regarder les usines. Mais oui, je sais que l'Europe arrive juste après.
Ma question, c'est par rapport notamment au cheminement du plastique. Parce que quand on pense impact environnemental du plastique, on pense souvent à l'aval. Mais qu'en est-il de extraire du pétrole pour fabriquer du plastique, pour amener ce plastique d'un endroit A à un endroit B, donc potentiellement des milliers de kilomètres si c'est fabriqué en Chine, alors que le pétrole a potentiellement pas été extrait, lui, en Chine, pour un usage qui va en général durer quelques minutes ?
C'est une très bonne question. Il y a un organisme américain qui s'appelle Ciel qui avait fait une première étude qui raconte un petit peu tous les impacts sanitaires qu'a le plastique sur l'ensemble de son cycle de vie, donc que tu viens de rappeler à l'instant. Et là, ils ont sorti aussi une autre étude où, effectivement, si on regarde tout ce que tu viens de dire, alors le plastique va probablement, dans une à deux décennies, participer jusqu'à 13% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en période de crise climatique, en période d'effondrement de la biodiversité, à laquelle il participe aussi, on se rend bien compte que finalement, on est là sur une troisième jambe très problématique et que la pollution par les plastiques, en tout cas, le cycle de vie des plastiques va bien au-delà de cette pollution qui est déjà quelque chose de dramatique en soi, on est bien d'accord.
Et ça explique peut-être d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu tant de diminution de gaz à effet de serre pendant la crise de la pandémie actuelle, parce que le plastique, a lui, son usage en tout cas, a continué à augmenter drastiquement.
Son usage, alors, j'ai entendu les deux choses, c'est-à-dire qu'il y a eu une explosion des plastiques à usage unique, ça c'est vrai, on en est tous témoins quotidiennement. En revanche, comme il y a eu des ralentissements de certains secteurs d'activité, comme celui de l'automobile par exemple, dans la balance générale, il se peut qu'il n'y ait pas d'explosion de production mondiale sur l'année 2020. D'accord. En revanche, on sait bien que les plastiques à usage unique sont les plus problématiques en termes de gestion de déchets et de pollution. Donc, c'est pas forcément très rassurant comme nouvelle non plus, quoi.
Et alors, une fois que le plastique est créé, on ajoute différents additifs, il me semble. Est-ce qu'on ajoute déjà toujours des additifs au plastique? Ils en ont besoin pour être plastique. Et pourquoi on ajoute des additifs?
Tout à fait, parce qu'ils en ont besoin pour être plastique. C'est exactement ce que tu viens de dire. Donc, effectivement, on n'a pas répondu à la question. Où qu'on aille piocher la matière première, qu'on aille dans la cellulose, dans les algues, dans le maïs, dans le pétrole, le charbon, etc., on va en gros aller prélever des molécules de carbone et d'hydrogène, et ensuite on va s'amuser à les associer de différentes manières. Donc on va créer des longues chaînes de carbone et d'hydrogène qui vont être dans le jargon des polymères, faits avec des monomères. Donc c'est les résines plastiques, d'accord? Sauf qu'après, pour être moulées et pour en faire des objets, on a besoin de leur donner des propriétés. Et ces propriétés de souplesse, de transparence, de colorisation, d'anti-UV, antibactérien, résistance au feu, enfin tout ce que tu peux imaginer, eh ben on va aller chercher des produits chimiques, quelques milliers de produits chimiques différents qui ont la particularité d'être soumis au secret industriel. Voilà, c'est une des découvertes qui, enfin il y a beaucoup de choses qui m'ont estomaqué pendant mon enquête, mais ça en est une, c'est-à-dire que par exemple, des chercheurs ont récemment étudié une trentaine d'objets de consommation courante en plastique, dont une grande partie d'objets alimentaires ou de jouets pour enfants. Hein. On parle de polyaourts, de choses vraiment très très courantes dans lesquelles on met nos langues, nos bouches, etc. Ils ont découvert 1114 de mémoire produits chimiques différents. 80% leur étaient inconnus.
Ah oui.
Et au final, de ces objets-là, 3 sur 4 s'avéraient toxiques. Donc là, voilà, ça pose la problématique. Donc les additifs sont indispensables, ils ne sont pas tous toxiques, attention. Certains sont connus pour l'être, comme les phtalates, les bisphénols A, S ou F maintenant, ça on pourra en parler aussi, puisque sans bisphénol A ne veut pas dire sans problématique de bisphénol. Voilà. Les retardateurs de flamme bromée sont problématiques. Voilà, on en connaît quelques-uns. Les réglementations commencent. Bon, au niveau européen, le bisphénol A a mis 8 ans pour être interdit dans certains usages uniquement. Les biberons, par exemple, pour les enfants, mais on en trouve dans toutes les boîtes de conserve.
Ah bon?
Par exemple, on en trouve dans nos tickets de caisse parce que c'est utilisé pour l'encre des papiers thermiques. Donc, c'est toujours pareil, on avance, il y a des vraies avancées. Par contre, dans la communication qu'on en fait, on laisse un peu trop souvent penser que ça y est, le problème est résolu. En fait, la réalité est plus complexe.
Mmh. Oui, complètement. Mais donc, tu disais quand même que certains de ces additifs, en tout cas, on le sait, ne sont pas dangereux, a priori. Ou tu peux même pas affirmer cela parce que
je peux pas affirmer. J'imagine, oui, évidemment, on va pas diaboliser l'ensemble du processus. Mmh. Et j'imagine bien qu'il y a des choses qui sont connues depuis longtemps. Il y a quand même un règlement au niveau européen qui existe, qui s'appelle REACH, qui protège, qui est un des plus avancés au monde. Mais enfin, quand on voit cette étude-là que je viens de citer, on se pose quand même des questions.
Mmh. Et alors, d'un point de vue sanitaire, c'est une des questions centrales pour l'homme, en tout cas, il me semble, ces additifs. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui quel est l'impact du plastique d'un point de vue santé?
Oui, alors j'ai envie de dire, pas que pour l'homme en fait, puisque la pollution par les plastiques dans les mers et dans tous les environnements naturels est problématique aussi parce que c'est une pollution chimique.
Oui.
C'est-à-dire que les plastiques vont avoir en fait, ces additifs dont on vient de parler ne sont pas chimiquement liés à la structure du polymère. Donc dès qu'ils sont soumis au contact de l'eau, du soleil, etc., c'est pour ça qu'on dit ne laissez pas une bouteille au soleil, ne chauffez pas du plastique, c'est parce qu'à ce moment-là, ils vont relarguer les produits et ils vont aller contaminer leur environnement. Que ce soit l'alimentation, l'eau, comme l'eau de mer, voilà. Donc oui, nous sommes aussi concernés, nous ne sommes pas les seuls. on s'en dira souvent un peu trop qu'à nous-mêmes, oui. Mais ceci dit, c'est une question qui est vraiment importante, c'est le vivant dans son ensemble, ouais. Qui du coup est impacté par cette crise du plastique. Donc, en ce qui concerne la santé humaine, j'ai moi-même osé appeler le chapitre « Vers un futur scandale sanitaire ?» point d'interrogation. Pourquoi point d'interrogation ? C'est parce qu'en fait, l'étude de la toxicité des plastiques est extrêmement compliquée pour plein de raisons. Je vais essayer de vous donner les principales. Déjà, on a affaire, ben, comme on le disait, à des substances qui sont souvent inconnues, soumises au secret industriel. Ensuite, on a affaire à une situation de multipollution, c'est-à-dire qu'on n'est pas au contact de produits chimiques uniquement avec les plastiques dans notre environnement. On n'est pas soumis à des nanoparticules uniquement de plastique. Donc, en vrai, comment font les chercheurs pour se dire, OK, on voit une relation de cause à effet, mais parmi toutes les causes, les incidences possibles, qu'est-ce qui nous dit que c'est le plastique qui va être en cause? Donc, ça, c'est un premier niveau où, en fait, on est face à des effets cocktails. Aussi, qui ont une autre complexité pour les chercheurs, c'est que une substance qui prise isolément peut être anodine, parfois se révèle toxique une fois qu'elle est associée à d'autres. Donc là, encore une fois, on voit bien qu'on est dans un sujet qui est compliqué à étudier. Ensuite, à part cette histoire des additifs chimiques où sur les perturbateurs endocriniens en particulier, on commence à avoir une vision des choses, sur les nanoparticules, les nanoplastiques, là, c'est l'univers totalement inconnu. C'est-à-dire qu'on commence à peine à avoir les outils qui nous permettent d'étudier ce monde-là. Donc, en fait, on a beaucoup plus de questions que ce qu'on a de réponses. C'est pour ça qu'il y a les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, ils ont quand même des fondements scientifiques. C'est-à-dire qu'on a vu sur les oursins, on a vu l'action des perturbateurs endocriniens sur les ours polaires. Donc, on sait quand même que c'est pas, même la Banque mondiale, qui est quand même pas réputée pour son, on va dire, son souci écologique, sanitaire, etc., dit que c'est aujourd'hui une vraie préoccupation. Les questions sont sérieuses. Maintenant, on n'est pas encore outillé pour y répondre complètement. D'autant que la problématique spécifique des perturbateurs endocriniens, par exemple, fait appel à un paradigme scientifique qui est à l'opposé de celui qu'on applique depuis le XVIe siècle.
Ah oui.
Qui dit que c'est la dose qui fait le poison. Dans toutes nos études, on va dire que une substance à faible dose va être anodine, et plus on va augmenter la dose, plus on va aller vers de la toxicité. C'est comme ça que fonctionne la plupart des substances. Sauf que les perturbateurs endocriniens fonctionnent à l'opposé. Non seulement une faible dose peut être nocive, voire même c'est la faible dose qui va être la plus nocive. Donc, en fait, c'est sur plusieurs générations potentiellement.
Oui.
Donc,
oui.
Là, on est face à un vide. Évidemment, il y a de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent à la question. Moi, mon enquête, on va dire la fin de l'écriture a dû dater de 2019. J'avais toujours pas trouvé en France quelqu'un qui pouvait m'éclairer sur la question. C'est encore, on est encore très dans la question environnementale du sujet. Donc, il y a quand même l'Assemblée nationale en France qui a fait un beau travail sur les emballages alimentaires et cette question-là. Il y a aussi le Sénat là qui a sorti des parlementaires qui ont sorti un rapport qui s'appelle c'est pas vers un futur scandale sanitaire, mais c'est une bombe à retardement. Là, il commence à y avoir vraiment des choses qui sortent, mais on a encore besoin de la recherche. On n'est pas au point.
C'est surprenant ce que tu nous dis, parce que d'un côté, on a ce que je comprends, c'est que ça avance du côté de des perturbateurs endocriniens, mais en revanche, pas du côté de la dangerosité du plastique.
Ben, ils sont liés aux perturbateurs endocriniens, oui. Puisqu'une partie des additifs sont des perturbateurs endocriniens.
Pas
que. Il y a d'autres problématiques. Ça peut être aussi des problématiques cancérogènes. Au niveau des troubles qui sont associés, on a l'obésité certains cancers et des troubles. Bah alors ça, c'est tous les perturbateurs endocriniens, hein, des troubles liés à la reproduction, au développement. Donc, c'est particulièrement catastrophique pour les fœtus, les bébés et les enfants en développement. Pas que nous, adultes, mais bon, une fois qu'on a visiblement tout qui s'est bien développé, on est quand même moins sensible aux effets des perturbateurs endocriniens. Donc, il y a aussi à quelle période de la vie on est exposé. Voilà, tout ça, c'est assez complexe. Et oui, on avance même sur les perturbateurs endocriniens, mais ça reste très en deçà. On est encore pas.
C'est clair. Et on parle souvent des perturbateurs endocriniens, pas particulièrement via le plastique, mais peut-être plus par les pesticides. Nous, on en a beaucoup parlé dans l'épisode qu'on a fait sur les pesticides, mais pas tellement en effet sur le plastique.
Et bien, en fait, c'est un vrai sujet avec les plastiques. C'est un vrai, vrai sujet aussi.
Et je pense que peu de personnes en ont conscience, parce que dans le grand public, on peut se dire, bah, évidemment qu'un pesticide est nocif, mais en fait, bah, le plastique aussi peut être
Alors, il y a des réglementations, évidemment, au niveau des plastiques alimentaires, mais bon, il y a des chercheurs qui lancent quand même l'alerte. Hein.
Oui, surtout si on n'analyse pas toutes les molécules qu'il y a dedans. D'un point de vue environnemental, maintenant, on comprend bien que c'est lié à partir du moment où ça atteint tout le vivant, l'environnement et le vivant. Mais est-ce qu'on a des problématiques spécifiques liées à l'équilibre du vivant, hormis la biodiversité ?
Alors, j'imagine qu'on sait déjà à peu près tous, on voit tous les phénomènes de cachalots qui s'étouffent, de tortues, etc. Mais ça, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. On a à peu près 100 000 tortues et mammifères marins qui meurent chaque année d'une overdose de plastique et 1 million d'oiseaux marins. Aujourd'hui, plus de 9 oiseaux sur 10 ont du plastique dans l'estomac. Ils en meurent pas forcément, hein, attention. Voilà. Le grand débat, c'est est-ce que la particule, elle est inerte ou est-ce qu'elle l'est pas? Donc, le polymère lui-même, en fait, il y a des scientifiques qui disent, c'est une longue chaîne de carbone et d'hydrogène. Le corps l'évacue assez, l'expulse assez rapidement. Mais quid des additifs? Et là où il y a une vraie problématique qui se pose pour notre santé comme au niveau environnemental, c'est, je le disais tout à l'heure, l'échelle nanométrique. Là, il y a une source d'inquiétude assez importante puisqu'on sait qu'à cette échelle-là, les particules ne peuvent plus sortir de l'organisme et elles s'accumulent dans l'organisme et elles créent des réactions inflammatoires. Et on n'a absolument aucune idée de ce que ça donne sur le long terme. Et on sait malheureusement aujourd'hui que la contamination au nanoplastique, on a du mal encore à la quantifier et la chiffrer. En France, on est pas mal placé au niveau de la recherche là-dessus, notamment avec le CNRS de Toulouse. Mais c'est pas très très encourageant. Une autre chose là au niveau environnemental pur qui inquiète les chercheurs, c'est que ils se sont rendus compte que sur les particules de plastique n'importe où, que ce soit dans l'eau de mer ou sur les sols où qu'elles se trouvent, on va avoir un écosystème adapté qui va se former, des bactéries, des virus, des micro-organismes qui vont s'épanouir à cet endroit-là. Sauf que le plastique voyage. Et voyage, on parle de 5000 milliards de microplastiques dans les à la surface des océans, on parle que de ce qu'il y a à la surface, c'est plus que ce qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie. Et ces étoiles, elles vont voyager de part et d'autre du globe. Et du coup, elles peuvent participer, on n'a pas encore la vision, mais un des océanographes que j'ai interviewé, pour lui, c'était son point d'inquiétude le plus fort, au plus grand transfert d'espèces qu'on ait jamais connu. C'est-à-dire qu'on a vu avec le tsunami du Japon en 2011 que des espèces ont assez rapidement voyagé sur les déchets entre le Japon et les côtes américaines. Et ils se sont rendus compte que les espèces japonaises étaient déjà, mais même pas 10 ans après, croisées avec les espèces américaines et qu'on avait voilà, ça va changer l'écosystème. Sauf que c'est dans une ampleur qui est celle qu'on n'a jamais connue, parce que tout s'est toujours croisé, tout a toujours voyagé. Mais là, on est dans des quantités et dans une dimension non maîtrisée qui est source d'inquiétude aujourd'hui.
Et là, tu nous parles des océans. Est-ce que les plastiques jouent aussi un rôle sur l'acidification des océans et donc peuvent poser un problème de santé globale de l'océan?
Alors, sur l'acidification en particulier, je saurais pas te répondre. En revanche, ils peuvent mettre en péril ou en tout cas, ils vont aller affecter la pompe à carbone qu'elle représente, c'est-à-dire l'activité du phytoplancton. L'océan, on le répétera jamais assez, moi je suis beau être une fille de la mer, je savais pas tout ça, joue un rôle écosystémique pour l'équilibre global du climat de la planète qui est énorme et il produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Et ça, c'est l'activité du phytoplancton. Or, effectivement, les plastiques commencent à impacter cette activité-là. Donc, ils vont participer au déséquilibre global, si c'est ça ta question, effectivement, de l'écosystème océan de manière générale.
Oui, je me suis demandé si c'était pas ça qui t'avait fait écrire ce livre aussi, parce que tu rappelles dès le début du livre à quel point en fait les océans sont la vie sur Terre, c'est-à-dire que sans un océan en vie, en fait, on respire pas. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et s'il y a pas de phytoplancton de bonne santé dans l'océan, l'humain derrière, il n'est rien.
Tout à fait. C'est vrai que là, c'est ma fibre environnementale qui parle en particulier. L'océan a été un de mes grands moteurs. Il est d'ailleurs le fil rouge de mon livre, même si, en fait, très vite, on sort de l'océan, puisque la problématique des plastiques, elle est bel et bien à terre. En revanche, ce qui m'a intéressée aussi, au-delà de ce qu'on vient de dire, c'est la dimension historique du sujet, c'est-à-dire que c'est par l'océan que le début nous a été révélé. C'est l'océan qui a crié en premier, Mayday. Alors qu'en fait, la pollution elle est probablement 4 fois supérieure sur les terres.
Oui.
Et donc aujourd'hui, on a très peu de données parce que finalement, on a surtout documenté la pollution plastique dans les mers. Ça y est, de nombreuses recherches commencent à être sorties sur les fleuves, les lacs. Mais en fait, plus on remonte et plus on en trouve quelque part.
Alors, je voudrais qu'on parle du recyclage maintenant, parce que je pense que chez le grand public, de façon générale, on a l'impression que ce serait pas si grave d'utiliser du plastique à usage unique, vu que derrière, il serait recyclé, donc d'une certaine manière valorisé. Donc, ma première question, ce sera, est-ce que le plastique est vraiment une matière recyclable et à quel point ?
Alors, je trouve que c'est un sujet délicat parce que, on va le voir, c'est très complexe et il y a une communication que je qualifierais même de mensongère sur le sujet. Là, j'y vais franco. En revanche, c'est gênant parce que mon discours peut aussi aller dire aux gens, ça ne sert plus à rien de trier, etc. Donc, je voudrais poser en préambule, continuons nos gestes citoyens, continuons de trier, ça ne sert pas à rien. On pourra voir pourquoi. En revanche, effectivement, le 100% recyclage des plastiques, comme le gouvernement l'a souhaité pour 2025 dans un objectif, est totalement irréaliste. Parce que les plastiques, donc le plastique, on l'a vu, n'existe pas vraiment. À partir du moment où on a des longueurs de chaîne de polymères différentes et des additifs différents, on a des centaines de matières différentes. D'accord ? Certaines se recyclent très bien. Et certaines... Enfin, très bien. On va clarifier le très bien aussi. Certaines se recyclent et certaines pas du tout, voilà. Et dans celles qui se recyclent, soi-disant très bien, en vrai, elles se décyclent. En soi, c'est pas très grave, c'est-à-dire qu'on va pas d'une bouteille refabriquer une bouteille. Ça, c'est le cercle vertueux souhaitable, celui qu'on imagine quand on pense recyclage. Non, en fait, même si la bouteille, le PET, polyéthylène terephthalate, est parmi les plastiques qui se recyclent le mieux. On va prendre une bouteille, on va essayer d'en refabriquer une autre, sauf qu'en fait, on va avoir une dégradation de matière qui fait qu'on va pouvoir utiliser 30, maximum 40% de matière recyclée. Il va falloir faire venir de toute façon 60 à 70% de plastique vierge. Donc déjà, on a un souci de perte de matière dans le processus qui fait que la bouteille qui redevient bouteille, c'est très rare. Et même quand elle redevient bouteille, au final, c'est qu'à 30% du plastique recyclé. Donc en fait, on va aller en faire de la polaire, ou du tuyau d'arrosage, ou du cintre. Et pourquoi pas? Mais ça s'appelle du décyclage, ça s'appelle plus du recyclage. Déjà, dans la conscience collective, c'est important, je trouve, qu'on appelle un chat, et qu'on sache que...
Tu veux dire que le recyclage, c'est faire du même objet le même objet?
Oui.
Alors que le décyclage, c'est faire d'un objet un autre objet.
Voilà.
D'accord.
C'est une définition, il suffit d'appliquer les bons mots, parce qu'en soi, il n'y a rien de mal à ça. La complexité avec les plastiques va être que quand on va laver notre polaire, chouette, en plastique recyclé, en fait, on va libérer plusieurs centaines de milliers de fibres par cycle de machine à laver. Fibres qui vont pas être piégées dans les stations d'épuration et qui vont se retrouver dans l'environnement. Donc, question, est-ce que on a progressé ? Je sais pas, j'en suis pas franchement convaincue. Et en même temps, c'est important de continuer. Ensuite, il y a une autre problématique. Là, on parle pour le plastique qui se recycle le mieux.
Le PET.
Voilà. Ensuite, on a tous les autres. Donc, tous les autres, on a aussi affaire à des plastiques multicouches, multimatières. Et ça, les recycleurs, ils le disent, on ne sait pas traiter. Tant qu'on ne va pas aller vers une réduction du nombre de résines, une simplification dans un objectif de recyclage, on aura du mal à avancer sur le recyclage. Alors, bémol quand même, là je parle du recyclage mécanique, technologie que l'on utilise actuellement. Il y a des recherches qui sont faites sur du recyclage chimique qui permettrait, lui, de ne pas avoir de perte de matière, de revenir vraiment aux atomes de base, en fait, aux molécules de carbone et d'hydrogène, pour là refabriquer totalement des matériaux. Concrètement, on n'y est pas, on n'y sera pas avant 10 ou 15 ans, et il y a déjà des ONG qui alertent sur le processus et la pollution du processus lui-même.
Oui, c'est ça, parce qu'on n'en parle pas, mais en plus, le recyclage en tant que tel est émetteur de gaz à effet de serre et de pollution.
C'est ça. Alors, moi, ce que je dis, c'est, je dis pas que le recyclage n'est pas une solution. Je dis qu'il fait partie des solutions à partir du moment où on aura travaillé en amont sur un certain nombre d'autres choses. et qu'on arrêtera de se mentir. Ce qui m'agace surtout, c'est les communications qu'on en fait et la confusion que ça génère dans l'esprit des gens. Mmh. C'est quand même déjà pas simple de s'occuper du monde de nos matières. C'est pas simple de s'occuper de notre alimentation. Moi, j'ai un petit garçon à la maison. Depuis qu'il est né, évidemment, on fait super gaffe, on cherche, on lit tout. Et un jour, mon compagnon est rentré des courses et le panier vide et il était livide, blanc. Et il était parti 2 heures et il s'était mis à lire les étiquettes. Et en fait, il était incapable de savoir quoi acheter après ça. Et du coup, voilà, on est dans un monde tellement complexe que moi, le discours que je tiens là, il me gêne parce que les gens, ils vont avoir envie de lâcher l'éponge en disant « Non, mais même ça, ça marche pas. » Non, on est en chemin. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que attention à ce qu'on essaie de nous vendre parce que ça arrange quelques intérêts dominants.
Oui, mais attends, ce que tu dis, moi, je trouve ça aussi positif. C'est-à-dire que tu dis… Bah, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Donc, en fait, il faut juste réduire en tout cas au maximum notre utilisation du plastique et ne pas se satisfaire de l'idée que ça va être recyclé derrière.
C'est ça. C'est exactement ça. C'est l'idée première. Alors, sachant qu'on ne pourra pas remplacer tous les plastiques, on ne pourra pas tous les supprimer. Et il n'est pas souhaitable de tous les remplacer. Ça a été aussi une découverte dans ma réflexion de me dire, mais si on ne réduit pas la voilure, et qu'on se met à remplacer par du verre, du carton, du papier, tout le plastique à usage unique qu'on utilise. Déjà qu'on a des crises de terres arables, de déforestation, là on va vers d'autres déplacements de pollution et crises environnementales. C'est pour ça que la première chose, c'est de réduire. Mais vraiment, drastiquement. On vit dans un monde du jetable. On peut très bien imaginer vivre dans un monde où le jetable est une absurdité. Et ce serait pas un non-sens, c'est juste une vision des choses. Et là, il y a un vrai appel à un changement de société.
On en parlera tout à l'heure, c'est en effet une vraie révolution qu'il faudrait faire. Là, ce dont tu nous parles, c'est quand même de l'aspect aussi positif du plastique. En effet, ça a aussi aidé l'hôpital, il me semble,
oui.
Des questions sanitaires, le fait qu'on puisse transfuser plus facilement, qu'on puisse injecter des médicaments. On saurait pas le remplacer demain, ça. Enfin, c'est pas souhaitable d'ailleurs de le remplacer, c'est ce que tu nous dis.
Alors, les poches de transfusion ne sont pas le meilleur exemple parce D'accord. qu'elles sont faites en PVC qui a des additifs toxiques qui questionnent franchement. Enfin,
D'accord.
Voilà. Maintenant, oui. Tous les plastiques ne sont pas à bannir. On n'est pas là pour diaboliser une matière. Je pense qu'il faut simplement la remettre à sa juste place. On en a fait un mauvais usage. On a utilisé une matière quasi non biodégradable, c'est-à-dire que c'est dans des temps tellement longs, évidemment qu'elle finit par rejoindre les cycles au bout d'un moment, mais tellement long et elle fait tellement de dégâts en chemin qu'on ne peut pas baser une société du jetable là-dessus. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait. Bon, voilà, ça s'appelle les 30 Glorieuses, c'était une époque, un état d'esprit, c'est fait, aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, il faut revoir la copie. Sauf que la plasturgie, c'est une des plus grandes industries, une des plus puissantes, elle est liée à la pétrochimie, elle est liée à la chimie, qui est encore plus puissante. Bon, ça va être compliqué de prendre le virage.
Et juste pour revenir sur la recyclabilité, comment ça se passe aujourd'hui? Parce que du coup, quand on met nos objets dans la poubelle jaune, comment il est fait le tri entre ce qui est recyclable et ce qui n'est pas recyclable comme plastique?
Alors malheureusement, j'ai manqué de temps pour vraiment faire ce suivi-là. C'est-à-dire, j'avais envie de me dire, là, ma poubelle jaune à la maison, où est-ce qu'elle va? D'autres gens l'ont fait, même aux États-Unis, ils ont mis une petite balise GPS dans leur poubelle jaune et elle s'est retrouvée à l'autre bout du monde, en Indonésie, dans une décharge à ciel ouvert. Attention, encore une fois, c'est pas le cas de tous les plastiques, il y a des gens qui travaillent correctement, il y a des choses qui sont faites. Bon, ça fait partie des scandales qui sont sortis quand même ces dernières années, c'est que nous exportons une grande partie de nos déchets dans des pays qui ne sont absolument pas équipés pour les gérer. La Chine faisait des polaires avec le PET, mais elle a fermé les portes parce qu'en fait, on pratique du recyclage aussi en Europe et aux États-Unis. On garde évidemment les meilleures résines pour nous-mêmes et on envoie surtout ce qui est difficile à recycler. Donc ça a créé des scandales environnementaux et humains. Sincèrement, j'en ai pleuré de ce que j'ai découvert dans les lectures que j'ai faites. Comme j'ai pas pu, manque de moyens, aller faire vraiment un reportage sur le terrain, je me suis appuyée sur le travail des ONG locales. et ce que j'ai lu m'a vraiment terrifiée. Donc c'est en train de se réajuster parce que le Danemark a mis du poing sur la table et du coup la convention de Bâle qui gère un petit peu les exportations de déchets a commencé à mettre un frein un petit peu à tout ça. Sauf que du coup toutes les routes se sont tournées vers l'Asie. Alors quand la Chine a fermé les portes, ça a été l'Asie du Sud-Est, hein, Malaisie, Vietnam, etc. Puis depuis c'est plutôt la Turquie. Là il y a eu des grosses négociations entre, il me semble, le Kenya et les États-Unis. Donc là maintenant on commence à regarder.
Pourquoi on fait ça?
Parce que c'est quand même bien mieux d'aller polluer l'autre bout du monde que des choses qu'on ne sait pas gérer ici.
Pour éviter d'avoir des décharges énormes chez nous.
Bah, c'est oui. Et puis, il faut savoir que quand on exporte des balles de plastique recyclé, nous, on les coche comme recyclées. Donc, on les coche dans les plastiques bien gérés.
Ah oui, d'accord. Alors qu'en fait, on les a juste exportés à l'autre bout de la planète.
Voilà. Alors, on n'exporte pas la totalité de nos plastiques, mais c'est quand même loin d'être anecdotique. Là, les enquêtes qui ont été faites et qui sont sorties récemment montrent quand même que ça a une envergure qui est pas de l'ordre de l'anecdotique.
C'est incroyable quand même. C'est effrayant. Donc, on comprend bien avec tout ce que tu nous dis. Désolée pour ceux qui ont envie de se pendre en écoutant cet épisode. C'est un peu la tendance quand on écoute les épisodes de Sur le grill des cotables en ce moment. La solution, c'est quand même ce que tu nous as dit, c'est-à-dire sortir de cette société du tout jetable. Mais comment on fait ça?
Eh bien, moi, je trouve qu'il y a un travail à faire à différents niveaux. Il y a un premier levier qui va être la lutte contre le lobby et la corruption, clairement. Il y a un deuxième levier qui va être l'éducation, la sensibilisation. Mais on a aussi envie de nous faire croire que la problématique des plastiques, c'est les gens qui sont crado et qui jettent ça n'importe où et qu'il n'y aurait pas de problème sans ça. C'est pas vrai. Il y a un macroéconomiste qui a récemment montré que la lutte contre les lobbies pouvait avoir un impact aussi, voire plus fort que l'éducation et la sensibilisation. Donc, il y a plein de choses à mettre en œuvre. Il y a plein de choses qui sont en cours quand même, pour revenir sur le côté avoir envie de se pendre. Non, l'état des lieux, il est dramatique. C'est sûr que si on reste que dans l'état des lieux, voilà, ça va être compliqué. Moi, j'aime bien, même si c'est un peu théorique et philosophique, en revenir à notre vision du monde. C'est que on est face à une crise environnementale majeure. Et elle n'est pas la seule. Là, on va continuer d'enfoncer le clou. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est arrivé au bout des limites d'un modèle. Et ça, c'est la partie, quelque part, la plus enthousiasmante. C'est que, finalement, nous sommes issus d'une culture, d'une idéologie, de croyances qui ont forgé nos sociétés ces dernières décennies puissamment, qui trouvent leur source à partir des Lumières. Et qu'aujourd'hui, finalement, tout reste à réinventer. Et même, quelque part, notre place en tant qu'espèce dans le vivant. Du coup, moi, j'ai envie de dire, ça va jusque-là, la question des plastiques. Et comment on fait? Ben, j'ai pas de baguette magique, mais je crois que s'il n'y a pas ce changement profond de regard sur le monde qui nous entoure, de remise en question de cet acte simple qui est celui de jeter, ben on n'ira pas très loin. Après, il y a plein de gens que ça arrange pas, hein, donc il va falloir vraiment se retrousser les manches. Il faut de l'action citoyenne. Par contre, on n'y arrivera pas sans les politiques.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que on peut remettre en cause ce fait de jeter du plastique, et on a de plus en plus de mouvements zéro déchet, et c'est tant mieux. Ça concerne quand même une certaine partie de la population qui est particulièrement concernée à ces enjeux-là et qui a le temps de se poser cette question. Mais concrètement, si on veut un impact massif, il va falloir les interdire, ces plastiques.
Il va falloir en interdire une grande partie. En tout cas, il va falloir réglementer. Le problème, quand on interdit purement et simplement, c'est ce qui s'est passé avec les sacs plastiques dans un certain nombre de pays, c'est qu'il y a toujours moyen de contourner la loi. Donc, on s'est mis à produire des sacs tout simplement plus épais que ce que la réglementation. Donc, finalement, on jette des plastiques encore plus épais. C'est un peu problématique. Et le marché noir en Afrique, par exemple, où il y a eu énormément de pays qui se sont mobilisés sur les sacs, bah, c'est extrêmement développé. Donc, on voit bien que l'interdiction pure et dure peut aussi questionner. Donc moi, je crois qu'il y a un triptyque, vraiment, les citoyens, les politiques et les industriels, de mon point de vue, doivent s'asseoir ensemble. Et parce que si on fait juste que pondre des interdictions, oui, on va résoudre certaines choses, mais pas forcément tout. On oublie souvent, nous, en tant que citoyens, le pouvoir finalement que l'on a, parce que ben, on est le socle des deux autres pièces du puzzle. On a une carte bleue en plastique et on a une carte électorale qui, elle, ne l'est pas.
Pas encore.
Et je veux dire, de nous dépendent aussi les autres. Donc je pense que cette prise de conscience citoyenne et cette montée du sujet dans l'opinion va quand même, à un moment donné, faire bouger les choses. Parce qu'on diabolise beaucoup les grandes entreprises, et franchement, ils nous donnent matière à le faire. Mais il y a aussi, parmi les entrepreneurs, et dans le monde économique, des gens qui ont conscience des choses et qui ont réellement envie que ça bouge. En revanche, il m'a été dit par une partie de ce milieu-là, tant qu'on n'est pas contraint, c'est tellement compliqué de réorienter les chaînes de production, il y a des emplois en jeu, c'est quand même pas simple. Donc il y a vraiment besoin, à un moment donné, d'une vraie volonté collective.
Et alors, qu'est-ce que tu penses dans ce cadre de l'interdiction qui est faite progressivement sur la sortie du plastique à usage unique? Donc on nous dit que d'ici 2040, le plastique à usage unique sera interdit de façon globale. Ça a commencé au 1er janvier 2020. Déjà, est-ce que la France pourra tenir ce calendrier et qu'est-ce que tu penses de cette loi de façon générale?
Je pense qu'elle va totalement dans le bon sens, sauf que 2040, ça nous fait quand même doucement rigoler parce que c'est quand même un peu loin. L'équivalent d'un camion Ben par minute qui se déverse dans l'océan, pour parler que de l'océan, par minute. Bon, 2040, c'est loin quand même. Après, ça va vraiment dans le bon sens. Et puis ensuite, tous les produits ne sont pas concernés non plus. Donc, il faut aller plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut le faire, de mon point de vue, sur un plan international. C'est-à-dire que je pense qu'on est vraiment dans une thématique qui se rapproche de ce qui a eu lieu avec la couche d'ozone, de ce qui a lieu aujourd'hui avec les changements climatiques et avec l'effondrement de la biodiversité. Et autant on a besoin d'actions locales, territoriales, autant on a besoin vraiment d'une vision aussi internationale, parce qu'on l'a vu, le plastique voyage dès son extraction, fabrication. Il voyage en tant que déchet. Tout le monde s'en lave les mains une fois que ça atteint les eaux, le grand large qui appartient plus à personne. Mais au final, on est tous impactés. Et si un pays avance, tant mieux, bravo, super, génial. Mais à un moment donné, il y aura aussi besoin d'une coordination internationale sur le sujet.
Et si, du coup, il faut sortir de cette idée globale, de cette société même globale de tout jeter, on est d'accord que dans ce cadre, les alternatives au plastique, comme le plastique biosourcé dont on a parlé tout à l'heure, n'est pas une alternative.
Alors, encore une fois, c'est pas le plastique biosourcé qui pose problème, c'est la communication qu'on en fait.
D'accord.
Voilà, à un moment, on a besoin de découpler nos activités du pétrole. On sait qu'on arrive au bout de ce modèle-là aussi. Donc, c'est pas inintéressant d'explorer ces voies-là. Sauf que on le fait mal, parce qu'on va dire, voilà, regardez, ça y est, génial. Juste pour pas réduire la voilure, parce que ça crée de l'activité, ça crée de l'emploi, ça génère de l'argent, ça intéresse. Donc, voilà, moi, je dis que les plastiques biosourcés, pourquoi pas, mais ne nous les vendons pas comme des bioplastiques. Dans la tête des gens, ce sera un plastique biodégradable. Oui. Et il ne le sera pas. Et c'est là que je suis en colère et c'est là que je trouve que c'est grave. Du coup, ensuite, on va discréditer des solutions qui peuvent faire partie des solutions. On va passer de blanc-noir. Ouah, c'est génial. Ah non, c'est de la merde. On arrête tout. Alors qu'en fait, tout peut faire partie des solutions. Mais même le biosourcé, il questionne dans la mesure où si on fait du biosourcé avec des éléments qui vont accaparer des terres agricoles, on va dans le mur, mais vraiment dans le mur. Et ça, c'est une alerte que j'entends pas assez. On est quelques-uns à le dire, mais pas assez nombreux. Attention à ce que nous faisons. Et je suis allée sur un grand salon d'industriels où il y avait tous les grands pontes, tous les penseurs qui ont créé des groupes de recherche à l'international, etc. Et quand j'ai levé la main pour dire, c'était sur les bouteilles d'eau là, enfin les bouteilles en plastique de manière générale, est-ce que dans votre groupe de travail, vous prenez en compte la question des terres arables sur... Sur la ressource des plastiques du futur, je vous jure, le grand président du machin m'a regardé, il a ouvert la bouche, il a fait « Hein ?» Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Je pense que nos élites sont eux-mêmes finalement pas assez formées sur les problématiques.
C'est sûr, c'est sûr.
On est face à un problème systémique. On peut pas l'aborder de manière simple. Enfin, simpliste. Simple, oui, mais simpliste, non.
Alors, on a compris que le plastique biosourcé n'était pas forcément biodégradable, et en effet, c'est très important de le dire. On a quand même, on voit apparaître du plastique biodégradable. C'est quoi le plastique biodégradable et est-ce que c'est bien?
Alors moi, je pense qu'on sera capable de le faire à l'avenir et il faut vraiment, comme je le disais tout à l'heure, tous les plastiques ne seront pas remplaçables, ne seront pas supprimables. Donc il y a vraiment un ordre, hein. Ce que j'ai dit dans mon livre, c'est vraiment ça, c'est ne jetons pas la pierre à tout, arrêtons de communiquer n'importe comment, nous voilons pas la face. C'est un, d'abord on supprime, deux, on innove. Et dans cette innovation, on va rester quand même sur une partie. Là, il y a un ordinateur, un micro, tout ce qui touche au numérique et à la haute technologie, on va avoir du mal à remplacer les plastiques. Donc là, il y a un vrai enjeu d'innovation et moi, je pense qu'on finira par y arriver. Biodégradable, c'est quoi? C'est normalement un plastique qui, dans l'environnement naturel, va se biodégrader. Enfin, la définition idéale, c'est à 100%. En très peu de temps. Sauf que, évidemment, les normes sont faites à 60% en tant de temps, puis on va présumer que hein, ça va se biodégrader. Après, il y a un gros mélange qui est fait avec les plastiques compostables aussi. Les gens croient que compostable, c'est biodégradable. En fait, non. Biodégradable, c'est en conditions naturelles, dans la nature. Compostable, c'est dans un processus industriel avec un taux de chaleur et d'humidité contrôlé. Il sera pas forcément compostable sur notre compost de maison. Moi, je vis à la campagne, je fais un compost, le plastique OK Compost ne se compostera pas à cet endroit-là. Donc ça, ça veut dire qu'il faut des filières. Et les filières, elles existent pas forcément. Donc voilà, c'est compliqué, hein.
Mais on a quand même du plastique compost home, non?
Oui, on a du plastique compost home qui est le label le plus sécure sur lui ne sera pas forcément biodégradable en conditions naturelles parce qu'il lui faut quand même un minimum d'humidité, de chaleur, de micro-organismes qui vont se concentrer hein, dans un tas de compost.
Et moi, ce qui m'interroge, c'est justement par rapport à ces additifs. On se dit, ok, c'est super que ça soit compostable, ça va disparaître, mais en fait, est-ce que ça va pas juste se transformer en nanoparticules qui vont contaminer le reste?
Ben, moi personnellement, je mets pas de sac OK Compost Home dans mon compost. On n'a pas le recul aujourd'hui là-dessus. Et sur le recyclage, tout à l'heure, c'est un point qu'on n'a pas dit, mais quid des additifs? On va prendre une bouteille, on va la découper, on va la laver au maximum et on va la mélanger à d'autres polymères auxquels on va ajouter à nouveau des additifs pour former le nouveau produit. Il n'y a aucun suivi de ça. Aucun. Un recycleur, il va vous dire c'est OK. Mais c'est OK quoi, en fait? Quel est le... Il n'y a aucune réglementation.
Donc, sanitairement, le plastique recyclé est potentiellement plus problématique.
On ne sait pas. Mais moi, je me demande ce que deviennent ces additifs, oui.
On peut faire le parallèle avec un épisode que j'ai enregistré très, très récemment sur PFAS. Je ne sais pas si tu connais, c'est perfluoré.
Oui.
Qui sont des molécules que l'on retrouve notamment dans le carton. On se dit vraiment qu'il n'y a aucun emballage en fait, qui est satisfaisant. Et on les retrouve dans le carton, notamment dans les magasins Biocop. L'enquête a démontré ça parce qu'ils ont utilisé de la fibre recyclée. Et qui était contaminée elle aussi. Donc on peut se dire ça typiquement pour les bisphénols, etc. C'est que même si on n'en veut pas, en fait, si c'est du plastique recyclé, il peut y en avoir.
Il peut y en avoir, oui. On n'a pas, il n'y a pas d'études là-dessus, j'en ai pas trouvé pour l'instant. Mais il peut y en avoir, oui.
Dernière question. Quel conseil tu donnerais à tous nos auditeurs et nos auditrices qui, après t'avoir entendu, se disent « Ok, je veux agir ». C'est quoi la première étape pour toi?
Alors c'est rigolo parce que c'est vraiment activement que je me pose cette question en ce moment parce que j'écris un petit livre justement à ce sujet puisque la grosse enquête ne répond pas vraiment à cette question au niveau de l'individu. Eh ben moi je dirais que la première c'est de s'attaquer justement à ce monde du jetable et de l'emballage. Il y a plein de choses à faire. La priorité absolue ça va être de le faire sortir de la cuisine et de l'usage alimentaire. Après j'ai vu des reportages là-dessus où les gens se mettent à tout jeter d'un coup à la poubelle leur tupperware. Bon, essayons de leur trouver un nouvel usage qui soit pas au contact alimentaire, mais ça peut servir pour des vis de bricolage ou ne jetons pas tout d'un coup. Mais il faut savoir, tu l'as dit en introduction, que 40% des plastiques utilisés sont pour l'emballage, en tout cas au niveau européen, et 36% au niveau mondial. Donc ça va être le premier travail, puis l'usage unique. Donc il suffit tout simplement déjà de se mettre dans notre cuisine et notre salle de bain et de regarder un petit peu tout ce qui s'y trouve et de chercher des alternatives sans emballage, donc tout ce qui est vrac. On le fait déjà hein, pour les fruits et légumes Et ça nous paraît normal. Et ben, ça pourrait nous paraître normal d'acheter en vrac tout ce qui est sec, toutes nos céréales, les farines. Donc, heureusement, c'est en train de se développer de plus en plus. Moi, je plaide pour un retour à la consigne en verre réutilisé, parce que là aussi, il y a un amalgame. Il y a consigne et consigne. La consigne a été arrêtée pour une question de transfert de charges financières entre l'industrie et le monde public, quoi. Parce que finalement, quand c'était consigné, c'était le producteur qui gérait ça. Et après, ben maintenant, ce sont les collectivités qui gèrent les déchets du jetable. Donc voilà, il faut revenir à des choses. Le verre recyclé, je comprends pas pourquoi on réutilise pas en priorité. Donc voilà, supprimer tout ce qui peut l'être. Être sur des matériaux plus simples, plus nobles, dès qu'on le peut, sans en abuser non plus, parce que le faire du verre, c'est quand même pas rien. C'est chauffé à très très haute température, c'est du prélèvement de sable. Donc réutilisons un maximum. Moi, je dirais que voilà, dans ce que je travaille, en tout cas chez moi en ce moment, avec mon fils de 10 ans, en plus, ça l'amuse beaucoup. Pour ceux qui ont même les plus motivés vont s'amuser à faire plein de do it yourself et il y a vraiment plein de choses. On n'est absolument pas obligé de passer par là pour réduire son empreinte plastique, mais c'est assez amusant de se rendre compte que on y gagne beaucoup en budget aussi, que finalement on n'a pas besoin de tant de produits que ça chez nous, qu'avec quelques produits sélectionnés bicarbonate, percarbonate, vinaigre blanc, etc. on peut faire beaucoup de choses. Et voilà, donc j'inviterai à explorer un petit peu ce monde de la matière qui nous entoure en essayant de supprimer l'acte de jeter le plus possible.
Oui, parce qu'on a aujourd'hui des alternatives, en plus, en tout cas à l'échelle individuelle, sur le vrac, tu le disais, sur le film plastique qui peut être remplacé par du film fait soi-même avec de la cire d'abeille, ou même simplement ne pas mettre de film plastique et juste une assiette
sur
son rouleau.
Les savons et shampoings solides, ils existent. Il y a vraiment plein de choses. Il y a... encore quelques années, c'était compliqué de trouver une brosse à dents qui soit pas en plastique ou alors dont les têtes étaient jetables. Aujourd'hui, voilà, moi, les premiers coton-tiges pas en plastique, pour essayer, j'ai dû les commander. Autour de chez moi, il y avait absolument rien. Et là, ça y est, ça commence. Donc, voilà. En plus, heureusement, c'est dans l'air du temps. Donc, on a de plus en plus facilement accès aux alternatives. Je dirais juste le point, c'est voilà, ne pas chercher nécessairement à remplacer, voir qu'on peut aussi beaucoup supprimer.
Moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est dès que tu fais tes courses. C'est d'être dans cette logique de, en fait, on va systématiquement quasiment te donner un déchet. Ça peut être en effet du papier craft, mais ça peut être du plastique dans le moindre traiteur où tu vas. Tu vas chez ton fromager, il emballe systématiquement ton fromage sur du papier où il y a une film de plastique, même si on la voit pas. Comment tu fais ça, toi?
Alors, là, moi, en ce moment, j'ose pas y aller franco là-dessus parce qu'il y a eu un recul à cause de la pandémie. C'est quelque chose qui se développait beaucoup. Alors, tu le disais tout à l'heure, dans un milieu concerné, privilégié, etc., c'est d'aller tout simplement avec ses propres emballages. Alors, ça demande une organisation, quand même. Mmh. C'est sûr que c'est une chose d'avoir un petit sac en tissu au fond de son sac et c'est autre chose d'avoir tous les contenants pour peser, etc. Malheureusement, avec la pandémie, les quelques commerçants qui commençaient à se dire oh bah ouais, chouette, finalement pourquoi pas, et qui jouaient le jeu et on pouvait assister à un changement culturel là-dessus. Bon bah il y a un retour en arrière à cause de la pandémie, mais ne lâchons pas. Donc comment on fait? Bah tout simplement, on prévoit d'avoir à disposition dans sa buanderie avant de sortir, dans le coffre de la voiture pour ceux qui vivent à la campagne, des contenants, et ensuite on y va. Alors la chantre du zéro déchet, Bea Johnson disait, le secret, c'est de surtout pas avoir l'air de douter. C'est de pas dire, s'il vous plaît, excusez-moi, ça vous ennuierait pas de ce nom du, bah, non, je prends là-dedans, merci. Et en fait, finalement, c'est l'autre qui va se dire, bah mince, alors, ça a l'air d'être une pratique, que moi, je n'ai pas, faut peut-être que je me mette à la page. Et puis, s'il y aura des gens qui vont faire ça, évidemment, plus la personne qui sert, elle va trouver ça normal.
Si certaines personnes veulent aller plus loin et notamment peut-être adhérer à des associations, ou en tout cas, tu disais un des points cruciaux, c'est de lutter contre le lobbying. Comment on ferait ça?
Alors, les deux associations les plus actives sur le plan du plaidoyer, alors les assos appellent ça plaidoyer et les industries lobbying. En fait, tous font du lobbying, sauf que les assos servent l'intérêt général.
Et que c'est public ce qu'elles font.
Exactement.
Elles ne le cachent pas.
Exactement. Mais au final, c'est la même chose. Eh ben, ce sont Zero Waste France et Europe, et Surfrider Foundation Europe, qui est connue pour son action sur l'océan, mais elle est vraiment très active de manière générale. Ce sont les deux ONG les plus impactantes au niveau français et européen. On a aussi évidemment Greenpeace et le WWF qui a fait une campagne là-dessus, mais c'est surtout Greenpeace Angleterre qui travaille sur cette thématique, moins en France. Ça, c'est pour la partie lobbying. Il y a plein de mouvements à rejoindre en fonction des affinités des uns et des autres. Déjà, rien que dans le monde de la réduction, de la réutilisation, il y a tout ce qui est lié au Repair Café. On va se mettre à réparer tout ce qui est lié au SEL, système d'échange local, où on va se rendre mutuellement des services, on va s'échanger. Il y a le troc, il y a tout le marché d'occasion, il y a la récup, les recycleries. Donc, il y a toute cette dimension-là qui peut intéresser toute une partie des gens. Il y a le nettoyage, parce que on l'a pas dit, mais enfin on l'a mentionné à peine, mais si on peut pas nettoyer l'entièreté des océans, on peut quand même agir localement autour de chez nous, et tout ce qui est prélevé de l'environnement est bénéfique. Et là, il y a de plus en plus d'initiatives. Donc il y a Mer Terre à Marseille, Surfrider et partout sur le territoire. Il y a plein d'actions, plein d'ONG. Après, ceux qui s'intéressent plus à la santé vont pouvoir rejoindre les lanceurs d'alerte. En France, on a le RES, Réseau Environnement Santé, qui a monté par exemple un label Ville et Territoire sans phtalates, qui propose plein de méthodologies pour des communes, communautés de communes qui ont envie de s'y mettre. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Hein.
Bon, on finit par une note enthousiasmante, c'est bien. Merci beaucoup, Nelly.
Merci.
Merci d'avoir écouté Sur le Grill d'Écotable. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que, comme nous, vous avez appris de nouvelles choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 sur 5, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Sachez par ailleurs que la musique de ce podcast est issue du merveilleux groupe engagé, le Caribou Volant. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'aller manger dans les restaurants écotables. À bientôt sur notre grille !